Ah oui, j'ai pas enregistré, oui, merci. C'est pas ça qui fait ce bruit. Ah bon, pardon. Je pensais que c'était petit enregistreur qui nous faisait une petite musique d'introduction. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Donc l'idée, c'est toujours de se dire, bah, la foi que j'ai aujourd'hui, eh bien, je ne la suis pas donnée, et qu'il y a une foi qui précède ma foi. Et donc, le fait qu'il y ait une foi qui précède, c'est ce qu'on va voir. C'est précisément nos 9 séances. Donc, le premier cours aujourd'hui, c'est sur la volonté initiatrice de Dieu se manifestant. Parce que oui, Dieu se manifeste, mais il ne se manifeste pas avec la volonté de l'homme. C'est lui-même qui décide, à un moment donné, de se faire connaître. Ensuite, les hommes à qui il s'est fait connaître, eh bien, vont témoigner de cette révélation. Ce sera notre cours prochain. Et puis la révélation, elle ne s'arrête pas avec ce témoignage-là. Ça continue avec l'incarnation du Fils. Donc vous voyez bien, on est à chaque fois dans des étapes qui sont... On pourrait dire, nous, on les voit comme des étapes chronologiques, mais en fait... Quand on parle de Dieu, on éclate la chronologie. Il n'y a pas de chronologie. On est dans un temps et un espace qui dépassent notre propre compréhension. Après, on sera dans la passion de Jésus-Christ. Et puis dans ceux qui vont confesser le Christ. Et puis dans une manifestation un peu particulière. Dieu qui va se manifester par la parole, par l'écriture, bien que ce ne soit pas Dieu qui écrive, mais il inspire l'écriture. Et puis après, on continuera avec l'Église, l'Église elle-même. Et puis le dernier cours, ce sera un cours un peu plus... Enfin, on va dire comment la théologie vient rejoindre notre foi. Voilà. Donc vous avez là, dans ce plan-là, vous avez un fil conducteur qui est la manifestation de Dieu depuis sa révélation, mais avec quand même un fil qui est celui de la... Voilà. De la foi, de l'acte de croire, l'acte de foi aujourd'hui. Alors justement aujourd'hui, après vous avez... ah oui, je vais peut-être commencer par ça, tiens, je ne sais pas. Normalement, vous avez une bibliographie. Je vais en dire quelques mots parce que c'est au début qu'on l'a... Qu'est-ce que j'en ai fait? Je suis sûre que je l'ai. Bon, ben, je ne l'ai pas imprimé, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Il y a une petite bibliographie. Enfin, petite. Vous voyez bien, j'ai commencé par Balthazar. Un parti pris. Voilà, je vous ai mis les grands, grands théologiens. Karl Barth, théologien protestant, mais ô combien nécessaire à notre théologie. Voilà, donc vous regarderez. Vous regarderez. Généralement, je n'ai pas mis des gros livres. Voilà, à part le livre Croire de Bernard Sessoué, mais qui n'est pas un livre que vous prenez pour lire du début à la fin comme un roman, c'est vous entrez par thème. Hein. Exactement, vous avez tout à fait, quoi que vous connaissez bien le livre. Mais par contre, je vous ai mis derrière un petit guide de lecture. C'est-à-dire, j'ai fait une petite sélection de livres avec quelques lignes sur chaque livre. Voilà, parce que l'idée, c'est pas que vous achetiez un livre de théologie. Au demeurant, qui coûte assez cher généralement, mais que vous entriez dans la théologie à partir de choses simples. Ça ne veut pas dire que c'est simpliste, mais ça veut dire que, eh ben, pour comprendre les choses, on entre avec simplicité, avec des choses simples. Et puis, là, vous avez cette petite... Donc, vous pouvez choisir suivant ce qui vous motive le plus dans ces quelques livres, là, dans ces 5 livres. Et puis sinon, ben, une recommandation qu'on m'a faite, moi, il y a bien longtemps. Eh bien, ce que vous ne comprenez pas, vous le laissez de côté. Vous ne vous embêtez pas avec ce que vous ne comprenez pas. Par contre, ce que vous allez comprendre, vous le notez bien et vous allez approfondir. Approfondissez ce que vous avez compris. Parce que si on cherche à approfondir ce qu'on n'a pas compris, on va partir dans tous les sens et on va perdre beaucoup de temps. Et l'idée, c'est plutôt de... Comment on se fait plaisir en faisant de la théologie et non pas comment on se flagelle en faisant de la théologie. Donc c'est plutôt ça l'idée.
Donc, c'est
la fois
j'entends ça.
Enfin, ça, là, c'est une des recommandations qu'un enseignant, il y a 25 ans, nous avait fait quand j'étais...
enfin jeune, j'étais plus très jeune déjà quand j'ai commencé la théologie, mais en tout cas jeune en théologie, on va dire. Voilà. Alors pour le cours d'aujourd'hui, donc normalement vous avez un plan en trois points, à part l'introduction et la conclusion, c'est plutôt de voir comment essayer de comprendre les termes de la révélation. Parce que quand on parle de révélation, moi j'ai bien un schéma de langage derrière, mais voilà, c'est bien de le déterminer avec vous. J'ai choisi trois termes que j'ai puisés dans un texte de Vatican II, Dei Verbum, on en parlera. Parce que ça me paraissait être une bonne entrée pour comprendre un petit peu la terminologie de la révélation. Ensuite, on va revenir au commencement. Au commencement, une révélation naturelle, puis une révélation surnaturelle, et puis une révélation directe. Donc vous voyez, rien que le plan, ça vous dites, y aurait-il plusieurs révélations ? Puisque théoriquement, la révélation, moi je la vois au singulier, en fait, il y en a plusieurs. Et c'est ce qu'on va découvrir en théologie, c'est que la révélation, elle se donne de différentes manières. La manière, c'est toujours celle de Dieu. Mais il y a des canaux particuliers, à la fois des canaux de donation et des canaux de compréhension. Mais bon, on verra ça plus tard. Et puis le troisième point, c'est la volonté initiatrice de Dieu se manifestant, que j'ai repris pour le titre de notre cours, pour que l'on mesure le caractère soudain de la révélation. C'est pas quelque chose qui était... Nous, on n'est pas dans la tête de Dieu. On ne peut pas dire que Dieu avait programmé la révélation. Mais lorsqu'elle se produit, elle se produit soudainement. Donc ça, on doit pouvoir prendre en compte cette soudaineté. Et puis ensuite, le dernier petit point, ce sera l'homme, c'est-à-dire comment on fait l'expérience de Dieu à partir de cette révélation qui nous précède déjà depuis longtemps et qui, malgré tout, continue de se faire aujourd'hui. Est-ce que ce programme vous convient ? Bon, très bien. Bon. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc voilà, la révélation. On va aborder la révélation du point de vue de la théologie et la révélation du point de vue de la foi. Alors, juste une parenthèse, si je parle trop vite, vous me le dites aussi. Vous m'arrêtez et vous me dites « Oh, stop, trop vite ». Donc, une des choses fondamentales, c'est de dire, et parce que c'est ce que l'on professe, c'est que la révélation a une origine, et cette origine, c'est Dieu. Là, je ne vous apprends rien en vous disant ça. Et vous voyez, quand on le dit, la révélation a une origine unique, et c'est Dieu, ce n'est pas simplement le fait de le savoir, mais le fait de le dire, ça pose les choses. C'est-à-dire qu'en disant cela, on va exclure tout ce qui n'aurait pas lieu d'être avec la révélation de Dieu. Ça veut dire que l'énoncé théologique ne peut pas se situer en dehors de cela. La théologie, elle s'inscrit précisément dans la révélation de Dieu. Et dans l'économie, ça on verra tout à l'heure, mais vous pouvez déjà noter le nom, dans l'économie que Dieu met en œuvre pour se faire connaître. Voilà. Parce que la révélation, elle est aussi contenue dans les Écritures. Elle est contenue dans les Écritures parce que les Écritures, nos Bibles, témoignent qu'à un moment donné, Dieu s'est révélé. Et les Écritures vont aussi témoigner que tous ont le même Seigneur. Ça, c'est important. Dans l'Ancien Testament, il y avait le père d'Abraham croyait à des divinités, comme les Grecs, ils priaient la lune. Donc vous voyez bien comment on va passer d'une croyance à de multiples dieux à une croyance en un seul Dieu, en un Dieu unique. Donc ça, c'est un passage très, très significatif. Et c'est le fait de dire que l'Écriture révèle que tous ont le même Seigneur. Eh bien, l'Épître aux Romains, je ne dis pas Paul parce que Paul n'a pas écrit l'Épître aux Romains, ben, on peut lire au chapitre 10, verset 4, « Car la fin de la loi, c'est le Christ, pour que soit donnée la justice à tout homme qui croit. » Et vous voyez bien la différence qui est importante pour nous ici. Il n'est pas dit à tout homme qui lit l'Écriture, mais à tout homme qui croit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que la révélation dont on prend connaissance en lisant les Écritures n'est pas une révélation exclusive dans les Écritures. C'est que l'on peut avoir la révélation de Dieu en dehors des Écritures. Est-ce que pour vous, ça pose problème ou question ou pas encore? Pas encore, voilà. Voilà. Mais ça en a posé pour l'Église, hein. On y reviendra, ça en a posé. Ça n'a pas été simple, hein, quand on dit ça, hein. Ça en a posé pour l'Église et particulièrement ça en a posé pour les protestants. Donc ce verset va nous indiquer la voie théologique. La voie théologique, c'est celle de l'acte de croire à partir de la révélation. Voilà. Et donc la révélation de Dieu, elle va se comprendre dans une continuité. La continuité de la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament et la continuité de cette révélation dans le Nouveau Testament. Et le Christ étant précisément ce trait d'union entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, ça a son importance parce que si on était tenté, et je sais qu'on ne l'est pas, de penser que l'Ancien Testament est caduc, parce que ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le Nouveau Testament, ben vous voyez bien, on serait dans l'erreur. Parce que la révélation de Dieu, elle ne commence pas avec le Christ. Elle commence bien avant. Mais ça, je ne vous apprends pas, ça, vous savez. Ça. Elle commence bien avant. Donc, la révélation de Dieu a un motif et elle a des raisons, parce qu'on pourrait dire qu'il y a un motif pour la révélation. Et le motif et les raisons de la révélation de Dieu, eh bien, c'est l'homme. Il est la cause de la manifestation de Dieu. Et donc, cette révélation, parce que l'homme en est la cause, eh bien, elle aura un sens pour l'homme. Pas un sens intellectuel ou un sens philosophique, mais un sens dans son être de croyant, en fait, dans son être qui devient un être qui croit. Et donc, la venue de Jésus-Christ, et ça va être notre programme, la venue de Jésus-Christ venant accomplir les Écritures, accomplir l'expérience de la révélation de Dieu des hommes de l'Ancien Testament, eh bien, va venir clore cette révélation. Voyez bien, Jésus est à la fois le centre et l'origine en tant qu'il est le Fils de Dieu, et il est celui par qui la révélation va être close. Mais vous voyez, quand je dis que la révélation est close, ça ne veut pas dire que la révélation, elle est terminée, qu'il n'y en a plus. Ça veut dire que la révélation, elle continue de se faire et de procéder dans nos vies, en Église, parce que, et ça c'est à Vatican II, voilà, la révélation a deux canaux de transmission, l'Écriture et la tradition apostolique. Vatican II dit un petit peu autre chose, il dit les traditions écrites et les traditions non écrites. Alors vous allez me dire, ben une tradition non écrite, c'est une tradition orale. Eh bien en fait non. Enfin, vous voyez bien, il joue un peu avec les mots, mais en fait non, parce que on n'est pas, nous, on n'a pas reçu la révélation oralement. Vous voyez, nous, on est comme Thomas. On est heureux celui qui croit sans voir. Eh bien on pourrait rajouter, ben heureux celui qui croit sans avoir entendu. ben nous, on est ceux qui n'ont pas vu et ceux qui n'ont pas entendu. Donc, Vatican II nous dit, la révélation, c'est l'écriture, mais il y a un autre canal pour l'écriture. Paul Claudel, quand il rentre dans l'église et qu'il a cette espèce de révélation qui le renverse totalement, eh bien, il n'a rien entendu, il n'a rien lu. Mais il est rentré dans l'église et il s'est passé quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un canal dont on n'est pas conscient qui vient, qui montre que la révélation de Dieu trouve son chemin dans nos expériences de vie. Et ça rejoint précisément l'acte de croire et notre acte de foi. Est-ce que pour ça, pour vous, c'est bon, ça? Voilà. Ben, c'est très bien. Parce que ce matin, en cours, ils ont plus de mal à comprendre ça. Donc, Dieu en son Fils, on peut dire, parce que la foi que nous avons aujourd'hui, on ne se l'est pas donnée. Voilà, ce n'est pas avec nos propres forces que nous avons la foi. Donc, la manifestation de Dieu par sa révélation et par son incarnation en Jésus-Christ, produit en nous la foi, donc manifeste en nous la foi. Mais de la même façon, notre foi, on peut l'identifier parce qu'elle est la manifestation de Dieu dans nos vies. Vous voyez, ça fait comme un aller-retour. Et c'est une foi qui est toujours en attente. Toujours vivante, toujours en attente. Alors parfois elle est forte et puis parfois elle est vacillante. Mais quand on dit que parfois elle est forte et parfois la foi est vacillante, bah ça montre qu'elle est vivante et c'est déjà beaucoup. Mais c'est toujours la foi qui manifeste le don de Dieu en premier. Donc là, moi quand je vous ai dit ça en introduction, je vous ai donné vraiment le programme du cours. Que la révélation de Dieu est manifestée dans l'histoire des hommes. Et si elle est manifestée, c'est pour une raison particulière. C'est pour le salut de l'humanité. Donc ce n'est pas pour sauver un homme en particulier, mais c'est vraiment pour le salut de l'humanité. Et que l'homme est la raison de Dieu, et la raison de sa manifestation. Et c'est là qu'on peut lire le texte 1 de la Constitution dogmatique, Dei Verbum, où là, on a... Moi, je vous conseille de lire cette Constitution dogmatique, elle est très peu... C'est vraiment pas épais du tout, c'est vraiment quelques pages. Voilà ce qu'on peut lire, ce que l'Église nous dit en 65. Il a plu à Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint, auprès du Père, et sont rendus participants de la nature divine. Dans cette révélation, le Dieu invisible s'adresse aux hommes en son immense amour, ainsi qu'à des amis. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. Pareille économie de la révélation comprend des actions et des paroles intimement liées entre elles, de sorte que les œuvres accomplies par Dieu dans l'histoire du salut attestent et corroborent et la doctrine et le sens indiqué par les paroles, tandis que les paroles proclament les œuvres et éclairent le mystère qu'elles contiennent. La profonde vérité que cette révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. Ben vous voyez, dans ces quelques lignes, on a vraiment un condensé d'une théologie de la révélation. D'abord, on nous dit quoi ? On nous dit qu'il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne. Ça plaît à Dieu. Il n'y a pas en Dieu une nécessité de se faire connaître. Vous voyez ? C'est-à-dire Dieu se fait connaître d'abord parce que ça lui plaît. Parce que c'est son plaisir de se faire connaître. Et c'est sa volonté. Ce n'est pas de la volonté de l'homme. Ensuite, on nous dit que sa volonté, il y a du mystère dans sa volonté, mais bien sûr, parce que Dieu se fait connaître, et on verra ça tout à l'heure, mais en même temps, on ne le connaît jamais comme il est réellement. Donc ça veut dire qu'il y a du caché dans Dieu, il y a du mystère. Et puis en même temps, il se révèle totalement en Jésus-Christ, puisqu'il a vécu parmi les hommes. Donc on pouvait le voir, on pouvait le toucher, on pouvait l'entendre. Donc vous voyez, on est toujours dans une espèce d'articulation entre du caché, du dévoilé et du caché. Mais ce qui reste un mystère pour nous, ça reste la volonté de Dieu. Parce qu'on ne sait pas quelle est la volonté de Dieu. Donc sa volonté ne peut pas être pour nous considérée ou interprétée comme une nécessité. La manifestation et la révélation de Dieu n'est pas une nécessité pour Dieu. Il se fait connaître parce qu'il le veut, parce que c'est son plaisir. Et sa liberté surtout. Et en se faisant connaître, vous voyez bien, ça a une conséquence pour l'homme. La première conséquence, c'est qu'il nous rend participants de sa nature divine. Ah, on est invité par Dieu. Il n'y a pas Dieu qui surplombe et nous, en dessous, qui sommes écrasés. Non, il nous invite à participer à sa nature divine. Il s'entretient avec nous. Et même, Saint Jean nous dit, il nous appelle « mes amis ». Voilà un Dieu qui se fait proche, voilà un Dieu qui se fait notre ami. Et notre acte de foi, notre acte de croire, il ne pourrait pas être celui qu'il est, hein, chacun, chacune, chacun d'entre vous, hein, s'il n'y avait pas cette certitude, consciente ou inconsciente hein, d'ailleurs, mais cette certitude que d'abord on est aimé de Dieu. Et que si l'on croit, c'est d'abord parce qu'il nous aime. C'est pas parce qu'on a fait de bien ou de mal, vous voyez. C'est ça. C'est d'abord parce qu'il vient vers nous, il se fait connaître à nous. C'est ça la révélation dans l'Ancien Testament. Il se fait connaître. Et quand il va s'incarner, il va se faire reconnaître. Ça va être compliqué pour les disciples de reconnaître, mais Pierre, il lui dira, quand il lui dit « Mais que dit-on de moi ?» Ben, certains disent que tu es le prophète Élie, hein ? Voilà, et Pierre dit « Mais tu es le Saint de Dieu, tu es le Fils de Dieu. » Donc, il y a une reconnaissance à ce moment-là, mais cette reconnaissance-là, Pierre, il ne la fait pas de lui-même. Vous voyez, quelque chose se joue de cette première révélation. D'abord parce que... je continue. Il ne faut pas que je digresse trop parce que...
Simplement le nom en latin du texte de Vatican II.
Dei Verbum. Dei Verbum. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Dei Verbum. C'est la révélation. C'est le texte de la révélation. Voilà. Pour votre information, ce texte-là de Vatican II, c'est le premier. Donc, le Concile Vatican II, c'est 1965. Le premier texte qui a été voté, c'est Dei Verbum. Enfin, qui a été voté, qui a été soumis à la commission. Le projet du texte qui a été soumis à la commission. Et ce texte-là a fait tellement débat, tellement débat, qu'il n'a été voté et reçu qu'en 65. C'était le dernier texte qui a été reçu. On évoquera ça. C'est pour vous dire combien ce texte-là, moi je trouve sublime. Lisez Dei Verbum, c'est un texte de théologie absolument sublime qui donne vraiment à penser aussi spirituellement, pas que théologiquement. Pour en arriver là, il y a eu vraiment beaucoup de discussions. C'est vraiment... Donc Dei Verbum, la constitution dogmatique sur la révélation de Dieu. Voilà.
On peut l'avoir ici ?
Alors, vous pouvez... Non, mais vous pouvez... je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec Internet. Mais ben voilà. Vous tapez Dei Verbum sur votre moteur de recherche Google, Dei Verbum, et puis vous avez le texte de Dei Verbum. Vous choisissez celui du Vatican, vous l'imprimez. C'est pas très long, en fait. Oui, c'est pas très long. Et c'est très très beau, c'est un très beau texte. Donc dans ce petit texte que je vous ai lu, j'ai sélectionné des mots à partir desquels je vais entrer dans cette terminologie, c'est-à-dire révélation, manifestation et économie, puisque Dei Verbum parle de ces trois mots. Donc la révélation, il se révèle en personne. Donc notre premier point, donc la terminologie de la révélation, donc le terme révélation. Donc le terme de révélation, eh bien c'est révélation en... Je ne sais pas s'il y a un crayon.
Sur la table.
Ah oui, sur la table. Révélation, donc en latin, révélation, mais vous avez sûrement fait du latin, donc sûrement plus que moi pour certains, donc du verbe révélare. Et donc, face à ce terme en latin, parce qu'à l'époque, vous le savez, les évangiles ont été écrits en grec, on avait un autre mot qui faisait face au latin, c'est apocalypsis, je vais y arriver, apocalypsis, et ça, ce mot-là, vous le connaissez, puisqu'on allait dans l'évangile, on a de Jean avec l'apocalypse de Jean. Et apocalypsis, ça veut dire révélation. Voilà. Sauf que entre le latin et le grec, il y avait un enjeu pour l'Église, parce que dès l'instant où on a des termes qui se rapportent à, on va dire, une pensée particulière, c'est le cas pour les Grecs, donc ça a toujours été compliqué pour l'Église. De partir de termes grecs, comment on va transformer, comment on va intégrer un terme grec dans un usage chrétien. Et le terme grec, il est chargé de toute une philosophie, de toute une pensée, de toute une manière de penser. C'est ça la difficulté. Donc, eh bien, c'est bien le verbe donc révélatio qui a été retenu. Et on le doit à un père qui s'appelle Tertullien, que vous connaissez sûrement. Tertullien, ça doit être 160-225, on n'est jamais sûr des dates. Et donc Tertullien a isolé ce terme-là et l'a donc choisi pour parler de la révélation dans un usage chrétien. Alors, si on prend le terme de révélation dans son acceptation commune, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que ce terme-là, révélation, va indiquer que quelque chose qui n'était pas connu jusqu'alors se fait connaître, quelque chose ou quelqu'un se fait connaître alors qu'il existait déjà, qu'il existait de manière voilée. Ça veut dire que dans révélation, il n'y a pas quelque chose, c'est pas un truc spontané, vous savez, je suis généreuse, comme ça, quelque chose qui, pof, je ne sais pas, un champignon, pof, voilà, c'est pas ça, vous voyez bien. Quelque chose ou quelqu'un était déjà là, mais se tenait caché jusqu'au moment où il décide de se révéler, où il vient... où il émerge à la conscience d'un autre. Donc, il y a le passage de quelque chose qui était caché mais qui existait, hein, c'est pas la non-existence à l'existence, hein, mais de l'existence mais qui était caché à la révélation, quelque chose ou quelqu'un qui se fait connaître. Ça, c'est ce qu'on peut dire de manière... commune, enfin, on a tous fait l'expérience de se dire « Ah, ben c'est bien sûr, effectivement, on se dit « Ah, ben c'était une révélation pour moi », ça veut bien dire que ça existait. Je veux dire, quand Pythagore a découvert son théorème, il n'a pas découvert quelque chose, le théorème, il existait avant lui, voilà. C'est ça, il n'a pas... Ben c'est ça, en fait, d'un seul coup, ah ben bon sang, ben c'est bien sûr. Donc c'est ça, la révélation, ça a cette dimension-là. Donc Dieu existait déjà, était déjà là, et à un moment donné, selon sa volonté, son bon plaisir et sa liberté, il décide de se faire connaître. Et vous voyez, quand je parle de cacher, de dévoiler ou de dissimulation, c'est important aussi pour nous parce que ça évite que l'on mette la main sur Dieu. C'est-à-dire, on ne possède pas Dieu. On va à la rencontre de Dieu parce que Dieu le premier est venu à notre rencontre. Et que du coup, on accepte les règles du jeu de Dieu. On accepte cela. Il se fait connaître, il se fait reconnaître par des moyens qui lui appartiennent, parce que ces moyens, c'est son économie. C'est ça. Donc, la manifestation de Dieu lui revient en propre, et c'est toujours la même cause, c'est l'homme créé. Alors, voyons un peu le terme de manifestation. La manifestation, c'est un petit peu différent, parce que la manifestation, ça va nous obliger à prendre en compte une double articulation. Voilà, quelque chose qui va s'articuler un peu particulièrement. Déjà, si on prend le verbe manifester. Manifester, c'est faire connaître. C'est faire voir. D'accord avec ça. Et puis quand je vous dis ça, bah déjà, moi j'anticipe un petit peu sur mon point d'après, c'est-à-dire sur l'Ancien Testament. On voit bien que Dieu, à un moment donné, dans l'Ancien Testament, il se fait connaître par des visions, par des auditions. Samuel qui entend la nuit, Samuel. Voilà, donc des auditions, des visions. Ça, Dieu se fait connaître. Et puis il y a une autre articulation, c'est se manifester. Et là, c'est différent. Parce que quand on dit se manifester, ça va être l'idée de se faire connaître. Donc voyez, on a quelque chose de réfléchi. Se faire connaître, de se montrer. C'est pas simplement, il y a aussi se montrer. Et donc là, on va aborder un autre point qui est celui de l'apparition. Il va y avoir l'idée d'apparition, l'idée d'apparaître. Et là, quand on dit ça, ben, on pense au Christ, on pense à l'incarnation. Donc ces termes manifester, se manifester ou apparaître, par exemple, bah, paradoxalement, enfin non, peut-être pas paradoxalement, en fait, ils ne font pas partie de l'écriture, on ne les trouve pas dans l'écriture. On ne trouvera jamais, on trouve un peu apparition au moment de la résurrection du Christ dans les évangiles de Luc, mais très peu en fait. Le terme de manifester, se manifester ne figure pas dans le vocabulaire biblique. Donc en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que les hommes qui ont été témoins de la révélation, ont fait une expérience, et que cette expérience-là, ils en ont témoigné dans les Écritures. Donc l'Écriture, elle devient pour nous un canal par lequel nous pouvons accéder à la révélation de Dieu. Parce que, rappelez-vous, on est ceux qui n'ont pas vu et qui n'ont pas entendu. Donc la Bible de l'Ancien Testament va témoigner de quelques moments que l'on appelle des théophanies, voilà, de quelques moments de manifestation de Dieu, à travers, on l'a vu, des tremblements de terre, des nuées, voilà, et donc Abraham est le premier qui bénéficie de cette audition de Dieu qui se fait connaître à lui. Donc c'est notre petit texte 2 où il n'y a qu'un verset, Genèse 12, verset 1, « Le Seigneur dit à Abraham, là c'est Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, et va vers le pays que je te ferai voir. » Première révélation, Abraham. Ensuite, une révélation par la vision. On est toujours en Genèse, mais en Genèse 18, versets 1 et 2. « Le Seigneur apparut à Abraham, au chêne de Mamré. Alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, dans la pleine chaleur du jour, il leva les yeux et aperçut trois hommes debout près de lui. » Donc là, il voit quelque chose, Abraham. Mais on voit bien que dans le deuxième texte, là, Abraham, il ne voit pas le Seigneur face à face. Il ne voit pas le Seigneur face à face. Il voit trois hommes. Donc, vous voyez bien, ça nous replace dans l'articulation dont je vous parlais à l'instant. Bien, il y a du dévoilé, mais en même temps, il y a du caché. Voilà. Abraham a la vision de quelque chose de divin, qui est de Dieu, mais il ne voit pas Dieu. Voilà, il voit trois anges ou trois hommes. Voilà. Donc, il y a du dévoilement et en même temps de la dissimulation. Si on voit du côté de Moïse, dans le livre de l'Exode, Exode 3, verset 1-2. On lit « Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Il regarda, le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. » Vous voyez là, c'est subtil quand même parce que quand on lit ça, et on a l'habitude de l'entendre, mais si on regarde bien, l'auteur qui a écrit, il nous pose toute la situation, parce que tout est important dans l'écriture. Il nous dit qui, il nous dit où, il nous dit pourquoi. Qui, Moïse, où, eh bien, dans la montagne, voilà, merci beaucoup. Pour qui ? Pour le beau-père de Jéthro. Et qui est le beau-père de Jéthro ? C'est pas n'importe qui, c'est le prêtre de Madian. Ça veut dire qu'on a des indications géographiques et des indications d'identité qui viennent nous dire, attention toi qui lis, eh bien, ce que tu lis, c'est authentique. Parce que on peut pas le prouver comme une preuve, mais vous voyez, historiquement, ça a existé. Voyez, donc c'est un message pour nous. Et dans cette situation géographique très concrète, eh bien, se produit quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire que l'ange du Seigneur apparaît à Moïse, voilà, une flamme de feu au milieu d'un buisson, et ce buisson se consume sans brûler. Voilà, il était en feu, mais n'était pas dévoré le feu. Quelque chose de paradoxal quand même. Donc quelque chose qui attire l'attention de Moïse. Eh bien, on pourrait se dire que Dieu, d'une manière ou d'une autre, il attire notre attention. Oui ?
Je n'ai pas bien compris pourquoi vous avez dit que les manifestations ne faisaient pas partie de la Bible.
Ah, du langage de la Bible.
Du langage de la Bible.
C'est-à-dire que dans la Bible, on ne trouvera jamais cette terminologie-là. Manifestation, révélation, apparaître. Sauf, je vous dis, dans Luc, ou dans les récits de résurrection, où on dit, chez Luc, il est apparu 40 jours, etc. Mais la terminologie même, c'est-à-dire les termes même, vous ne les trouvez pas dans la Bible. Il n'y a pas manifestation. On pourrait dire que ces termes-là, ils s'inscrivent dans une interprétation, en fait. Dans une interprétation qui est une interprétation... en théologique aussi, quand même, d'une certaine façon. Voilà. Ça va pour vous ? Ouais. Alors, les théophanies dans l'Ancien Testament, elles ont une fonction qui est la fonction de légitimer ce qui vient de se passer. Ça légitime celui à qui Dieu s'est révélé de cette manière-là. D'abord, ça le légitime par rapport à son groupe. Ça, c'est important. Ça va lui donner une autorité. Et ça le légitime par rapport à sa foi en Dieu. Alors, pour Abraham, la justification, c'est la foi. Souvenez-vous, la ligature d'Isaac, Genèse 22, il fallait qu'il ait drôlement la foi en ce Dieu unique pour qu'il accepte, à un moment donné, de mettre son enfant prêt au sacrifice. Donc la foi d'Abraham, c'est la foi première. Notre foi, on pourrait dire, elle s'origine dans la foi d'Abraham, qu'il ne s'est pas donné lui-même. Peut-être que Dieu a mis en Abraham une telle confiance qu'il était prêt à tuer son fils, à le sacrifier, mais sachant que Dieu ne le laisserait pas faire. Donc il y a aussi l'idée que Abraham savait, d'une manière dont je ne pourrais pas expliquer, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, Dieu unique,
et deux, que c'était un Dieu d'amour. Et c'est donc à partir d'un acte de sacrifice qu'Abraham découvre que Dieu est d'abord un Dieu d'amour. Donc ça, c'est quelque chose de primordial. Et puis par contre, pour Moïse, la révélation, elle est différente, parce que là, Moïse, il est envoyé. Souvenez-vous, en fait, Moïse, quand il fait paître le troupeau, c'est qu'il a déjà... il s'est sauvé parce qu'il avait tué un soldat égyptien, et que du coup, il voulait pas être... Donc il s'est sauvé. Mais voilà que cette révélation pour lui, c'est plus qu'une révélation, c'est une mission. Dieu lui donne la mission de retourner en Égypte et d'aller libérer le peuple. Et en plus, pour Moïse, il y a quelque chose en plus, c'est que dans Exode 3,14, Moïse va être celui à qui Dieu va se faire connaître. Je suis qui je suis. Voilà, la révélation de l'identité de Dieu. Dieu est ce qu'il est. Et quand on dit ça, on dit tout, on a quelque chose de plein, d'entier. Et puis en même temps, toujours, cette articulation entre du caché et du révélé. Je suis qui je suis, il dit pas je suis Dieu. Je suis qui je suis. Donc à l'homme de découvrir l'être même de Dieu. Mais quand Dieu dit ça, il révèle l'être, son être même. Alors, je regarde ce que je peux vous dire d'autre. Alors, on peut continuer avec la constitution dogmatique Dei Verbum, avec l'idée, vraiment, enfin, l'idée, avec un grand I, qui n'est pas l'idée grecque, l'idée, c'est que la révélation, c'est Dieu en tant qu'il se communique. Quand on dit Dieu, on doit penser communication. Parce que c'est comme ça qu'on connaît Dieu, parce qu'il s'est communiqué. Et voilà ce que dit le chapitre 1, c'est le texte 3, chapitre 1, paragraphe 6. « Par la révélation divine, Dieu a voulu se manifester et se communiquer lui-même, ainsi que manifester et communiquer les décrets éternels de sa volonté concernant le salut des hommes, à savoir de leur donner part au bien divin qui dépasse toute pénétration humaine de l'esprit. » Donc dans ce texte-là, on a se manifester et se communiquer lui-même. Ça veut dire que Dieu ne donne pas autre chose que lui-même. Il ne nous trompe pas. Il se révèle vraiment lui-même. Voilà. Et qu'il nous dévoile les décrets, des décrets éternels de sa volonté. Et donc sa révélation, que traduit une volonté et une liberté, eh bien, va se déployer dans des actes, alors d'abord dans des paroles, et puis dans des actes. Et ça, l'Ancien Testament est pétri de l'intervention, mais ça je ne vous apprends rien, de l'intervention de Dieu dans l'histoire. Alors, si on en arrive au terme d'économie, parce que ça, ce terme d'économie, c'est un terme théologique, on va dire c'est un concept théologique. L'économie. Alors, qu'est-ce que l'économie quand on parle d'économie en théologie? Il faut comprendre l'économie comme un principe. C'est un principe selon lequel Dieu va intervenir et en intervenant, il va dévoiler les moyens qu'il se donne pour se faire connaître. Vous voyez? Donc, en gros, on pourrait dire l'économie de la révélation de Dieu, c'est un principe. Et ce principe, eh bien, ce sont les moyens que Dieu se donne en liberté, dans sa volonté, se donne pour se faire connaître. Tout à l'heure, je me suis présentée à vous, les moyens que j'ai utilisés, je me suis mise debout, on s'est présenté, je vous ai dit qui j'étais, que j'étais mariée, vous voyez, j'ai donné des éléments, voilà. Les moyens pour lesquels vous m'avez identifiée, non pas comme une religieuse, mais comme une laïque, non pas comme une célibataire, mais comme étant mariée et ayant des enfants. voyez, donc ça, ça fait partie, c'est les moyens. Ça, c'était mon économie. Voilà, mon économie, comme vous, si vous présentez, vous allez mettre en œuvre votre propre économie. Eh bien, la révélation de Dieu, elle est économique. Dieu se fait connaître dans l'Ancien Testament par des paroles, puis par des actes. Et ensuite, Dieu va se faire connaître, eh bien, vous le savez, par l'incarnation du Fils. C'est ça son économie. Alors ces trois termes-là, révélation, manifestation, économie, ben, ça va nous permettre d'aborder la révélation au commencement. Parce que si on se reporte au commencement du commencement, eh ben, c'est d'abord une révélation, une manifestation par la création. Et la création, c'est déjà une première manifestation de la présence de Dieu dans le monde. Donc l'initiative de la manifestation revient à Dieu lui-même et elle commence par la création, parce que c'est précisément par elle que Dieu est manifesté. Vous voyez bien, on a tous fait l'expérience de paysages magnifiques, voilà, et une fois qu'on a dit que c'est beau, ben, on se dit, ben, ça nous dépasse, et il y a quelque chose de divin dans ce qui nous dépasse. Ben voilà, la création, c'est déjà le lieu où on peut rencontrer Dieu. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que il n'y a pas que l'Église ou qu'en Église ou qu'en communauté qu'on rencontre Dieu. Et ça nous renvoie à une révélation universelle. Voilà. Tout un chacun est capable de rencontrer Dieu par les moyens que Dieu a déjà donnés et a déjà mis dans sa création. Donc Dieu se donne à voir dans le sens où la création ouvre à l'homme une dimension transcendante. C'est-à-dire que cette dimension lui donne de voir une puissance créée qui n'est pas la puissance de l'homme, qui n'est pas une puissance humaine, une puissance qui le dépasse. C'est-à-dire que l'homme n'est pas intervenu par sa propre force. Il peut écraser la fourmi, mais après, ben, qu'il crée la fourmi, il ne peut pas. Donc c'est vraiment cette création-là, c'est une création particulière, et vous voyez bien, avec une puissance de vie, et paradoxalement de mort aussi, par les éléments, etc. Mais lorsque l'on est face à la création, par cette révélation, on dira que c'est une révélation naturelle, par laquelle Dieu se fait connaître extérieurement, c'est-à-dire par la création, c'est-à-dire par une intervention qui est extérieure à lui. La création, on pourrait dire, elle est sortie de lui, d'une certaine façon, il a créé le monde. Et donc l'expression de cette manifestation de Dieu, ben, elle se produit, on l'a vu avec le buisson ardent, on peut le voir dans les tremblements de terre, on peut le voir dans les nuées, dans toutes ces théophanies que l'Ancien Testament témoigne dans ses écrits. Mais il y a aussi, puis dans l'orage aussi, dans le livre des rois, au premier livre des rois, il est fait mention de beaucoup d'orages à travers lesquels Dieu se manifeste aussi. Mais il y a cette manifestation intérieure, c'est-à-dire par la conscience de l'homme. Et là, on peut penser peut-être à Abraham avec une puissance créatrice. La puissance créatrice de l'homme n'est pas une puissance qu'il s'est créée. Le proverbe, le verset 23 du proverbe 8 dit « Dès l'éternité, je fus établi, dès le principe, avant l'origine de la terre. » Vous souvenez-vous, l'Esprit soufflait dès avant, sur les eaux, dès avant la création. Cela signifie qu'avant même que l'homme comprenne et se dirige vers Dieu, ben Dieu était déjà présent. Et c'est dans la création elle-même que se produit la manifestation de Dieu. Cette manifestation, c'est une puissance, mais on doit la comprendre comme une puissance souveraine. Et donc là, ça donne déjà quelque chose sur la qualité de Dieu. Dieu est souverain. Et donc, à partir de cette création, la conscience de l'homme peut s'ouvrir à une puissance qui le dépasse, comprendre qu'il peut s'approcher de la souveraineté de Dieu, mais Dieu va s'approcher de l'homme par une parole adressée, et là on arrive à va arriver à une autre manière de Dieu de se révéler, c'est la révélation surnaturelle. Et là on arrive sur la révélation de Dieu par la parole, vision, audition, voilà, c'est ce qu'on connaît, c'est les prophètes, les messagers directs de Dieu, ceux qui ont reçu la parole de Dieu par des moyens différents. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, Dieu qui appelle Samuel, qui dit « me voici », mais au bout d'un moment, parce qu'il ne comprenait pas, il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Donc on voit bien qu'il faut un temps. Mais lorsque cette révélation surnaturelle devient une révélation directe, cette révélation directe, au moment où elle se produit, elle doit encore être authentifiée. Parce que vous voyez bien, les prophètes, lorsqu'ils reçoivent la révélation de Dieu par une audition la nuit ou par des visions, il y a toujours associé à cette audition et une vision, il y a toujours adressé une parole qu'ils entendent. Voyez ? Et ça permet d'authentifier les vrais prophètes. Parce qu'il y en avait des faux prophètes à l'époque, hein, on est bien... On est quand même dans un régime païen quand même. Eh bien, les faux prophètes avaient aussi des visions et des auditions. Mais ils n'avaient que ça. Ils n'avaient pas la parole de Dieu associée à ces visions et ces auditions. Donc, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils interprétaient leur divination. C'est complètement différent que de redire les paroles de Dieu. C'est pour ça que les prophètes sont des messagers. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils parlent, ils redisent la parole que Dieu leur a transmise. Donc la parole, elle est dès le début, en fait. C'est-à-dire que tout s'articule autour de la parole. Il n'y a rien qui n'existe dans la révélation de Dieu qui ne soit pas une révélation à laquelle la parole s'est... C'est adjointe. Est-ce que ça va pour vous? Vous voulez faire une pause? Ou pas? Vous me dites. Enfin, en tout cas, vous pouvez sortir si vraiment c'est nécessaire. C'est vous qui dites, oui?
Quelle est la forme de notre identification? C'est-à-dire, si je suis un faux prophète et que Dieu me parle et me dit ça, je m'auto-proclame prophète.
Ouais.
Et personne ne peut me contredire. Si ce que je dis paraît légitime, je vais drainer derrière moi des gens.
Oui, sauf que la différence avec les prophètes de l'Ancien Testament, c'est qu'ils étaient connus du groupe. C'est-à-dire, ce n'étaient pas des anonymes. Ils avaient une position qui, la plupart du temps, était une position d'autorité. Enfin, quand je dis autorité, ça ne veut pas dire qu'ils étaient autoritaires. Mais ils avaient une position par rapport au roi, par exemple. Souvent, les prophètes, c'est eux qui vont redire au roi ce qu'il fait de mal. Ils vont, par exemple, remettre le roi à sa place en lui disant « voilà les injustices dans ton royaume ». Donc, ce ne sont pas des gens inconnus. Donc, ils sont déjà identifiés par leur groupe comme des gens qui ont une certaine stature. Et donc cette stature-là, quand ils vont témoigner que Dieu s'est adressé à eux, vous voyez par exemple Samuel, ce petit Samuel, qui entend Samuel, Samuel, et puis bon, il va voir Élie qui lui dit, va te recoucher. Puis trois fois, à un moment donné, Élie dit, c'est pas un rêve, quoi, il s'est passé quelque chose. Et c'est Élie qui lui dit, tu répondras, Seigneur, me voici. Donc Élie peut témoigner auprès de la communauté, auprès du groupe, que Samuel a été a reçu un message direct du Seigneur. Et donc Samuel devient prophète pour le groupe. Vous voyez ? C'est pas juste vous et moi, quoi.
Oui, mais si on va plus loin, quelqu'un qui était déjà identifié et qui avait déjà de l'autorité pouvait aussi dire un message valable sans être un vrai prophète.
Alors, généralement...
Comment reconnaître, parce que comment on sait si Élie disait quelque chose de vrai ou...
ouais. Mais parce que Élie était déjà reconnu comme étant un prophète lui-même. C'est-à-dire que c'est pas juste... Vous voyez, on parle d'Élie, mais il faut voir toute l'histoire d'Élie. Toute l'histoire d'Élie. Donc ça, c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. Comment il en est arrivé? Élie, il a été envoyé. Quand il y avait de la famine, quand il n'y avait pas de pluie dans le désert, quand il a sauvé le fils de la veuve de Sarepta dans le premier livre des Rois. Vous voyez, il y a toute une histoire qui fait. Ils ne se sont pas autoproclamés prophètes. Mais c'est dans toute leur historicité, ils sont reconnus comme étant prophètes. Et parce que eux-mêmes sont capables de réaliser des actions qui sont des actions surnaturelles.
Donc tous les prophètes ont une histoire
derrière. Eh bien, tous les prophètes ont une histoire. Samuel, il a une histoire. Samuel, la femme qui va pleurer au temple et puis qui marmonne sa prière parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et Élie lui dit, quand tu auras fini de cuver ton vin, et là elle lui dit, mais non, et elle lui explique. Et bien, elle dit, si j'attends un enfant, elle ne le dit pas comme ça dans la Bible, mais enfin, globalement c'est ça, et bien j'offrirai cet enfant à Dieu. C'est notre petit Samuel. Il était voué à devenir ce prophète-là. Vous voyez ? Jérémie qui dit, mais tu me connais dès le sein de ma mère, tu m'as fait. J'étais fait pour être... Donc c'est pas une autoproclamation. Hein ? Et Jérémie, le prophète Jérémie, c'est un prophète qui a voulu sauver le peuple, mais qui n'a pas été compris, parce que pour sauver le peuple, il a dit, il faut qu'on se mélange. Voilà. Puisque les Babyloniens sont là au milieu de nous, si on veut exister, il faut qu'on accepte de se mélanger avec le peuple. Et ça n'a pas été reçu. Donc le pauvre Jérémie, d'où les Jérémiades, parce que Jérémie n'arrêtait pas de se plaindre, à juste titre, Jérémie a été exilé en Égypte et il est mort en Égypte. Donc vous voyez bien, il y a une histoire, c'est pas juste quelque chose de spontané comme ça. Ça va pour vous ? Mais vous avez raison de poser la question, elle est tout à fait légitime, tout à fait légitime. Alors, je suis peut-être allée un petit peu vite. Alors, là, on en arrive à notre point 3, qui vient caractériser cette volonté de Dieu, cette volonté initiatrice de Dieu se manifestant. C'est d'abord de parler du caractère soudain de la révélation. Parce qu'on a vu qu'il apparaissait soudainement dans la nuée, et ça Moïse, ou dans le buisson ardent, et ça Moïse
ne s'attendait pas à une telle manifestation. Et on peut imaginer son étonnement et sa surprise. Donc vous voyez bien que là, on est devant un événement surnaturel. Donc déjà, l'événement, lorsqu'il est surnaturel, met Moïse dans une situation de perception peut-être de quelque chose de soudain et de quelque chose de nouveau. Donc dans la révélation, on doit tenir à la fois la dimension de soudaineté et la dimension de nouveauté. Pour Abraham, par exemple, c'est pas simplement soudain, mais c'est aussi radicalement nouveau. Parce que dans une époque où l'on croit à plusieurs dieux, eh bien, on pourrait se dire, enfin, vous imaginez quand même la situation, la radicale nouveauté que ça représente pour cette époque-là, donc 18 siècles avant Jésus-Christ, dans ce monde païen, ce que ça représente comme nouveauté de pouvoir imaginer qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Donc ça, c'est une nouveauté radicale, totale. Et il faut imaginer le bouleversement que ça représente. C'est un changement de paradigme total. Donc ce bouleversement-là, c'est quelque chose qui va à la fois créer des ruptures dans les communautés, dans les groupes, enfin on va plutôt parler de groupes ou de tribus, et ça va créer des ruptures parce que forcément Abraham va entraîner avec lui son propre groupe. Et ce groupe-là va essaimer, hein, va devenir de plus en plus important. D'autant plus important que c'est précisément à ce groupe-là que la promesse de Dieu a été faite de recevoir une terre, va vers le pays que je te montrerai et la multitude. Donc c'est la terre, ce que dirait-nous la terre promise, elle est liée à une promesse. Et donc la révélation de Dieu, elle se fait au début à Abraham à partir d'une promesse. Il lui fait la promesse d'une terre. Et donc, cette promesse-là de la terre, elle a traversé l'histoire. Parce que la terre va devenir, la terre promise va devenir l'identité du groupe. Voyez, par extrapolation, on peut dire ça, il n'est pas question d'entrer dans le conflit israélo-palestinien, mais juste pour que vous compreniez, c'est que la terre pour les juifs, c'est pas juste un territoire, c'est leur identité. On est juif parce qu'on a une terre. Dans l'Ancien Testament, et parce qu'il y avait le temple, la terre, le temple, la Torah. C'est ça l'identité. Donc des indications, c'est pas juste défendre un territoire et pas le laisser, pas le céder. C'est parce que sans terre, ils n'ont plus d'identité. Donc c'est pour vous dire que depuis Abraham, l'idée de la terre promise. Alors évidemment, le problème, c'est que Dieu donne la terre promise à Abraham, mais le problème, c'est que la terre de Canaan, elle est habitée.
C'est ça.
Ah ben voilà, c'est ça. Ben voilà, c'est ça. La terre est habitée, et en plus, elle est habitée par des gens qui sont bien plus civilisés que le peuple hébreu. Le peuple hébreu, il a passé 40 ans dans le désert. C'est un peuple nomade, et quand il arrive à Canaan, ben il est face à un peuple païen, ça c'est vrai, mais qui est organisé. Il y a des cités. Il y a de l'agriculture, il y a des outils, il y a tout est structuré, il y a des, bon, je sais pas s'il y a des lois, j'irai pas jusque là, je suis pas historienne de l'Ancien Testament, mais en tout cas, le peuple arrive dans un lieu où les gens sont sédentarisés, donc ils ont organisé leur vie et leur économie.
économie commerciale, économie agraire. Bon, voilà. La terre est habitée. Bon, moi, à partir de là, je dis plus rien, parce que ce que je veux que je vous dise, c'est... Voilà. Mais c'est la promesse. Dieu leur fait la promesse de cette terre-là.
Est-ce que l'esprit qui se mélange avec eux, c'est ça?
Ah ben voilà. C'était tout le problème de Jérémie. Il fallait se mélanger si le peuple voulait durer, il fallait se mélanger. Voilà. Et ça, c'était un sacré bouleversement pour les Hébreux, pour les Juifs, enfin à l'époque, pour les Hébreux. Vous vouliez dire quelque chose, madame? Non. Oui, je sais pas.
Oui, c'est vrai que c'est difficile à comprendre quand même.
Ouais, ouais.
Cette histoire, parce que.
Enfin, ouais.
Sûrement qu'ils savaient que ça allait être générateur de friction.
Oui, mais en même temps, on pourrait dire qu'une fois que les 12 tribus d'Israël, hein, vous savez, une fois que voilà, Moïse meurt, et puis voilà, c'est Josué, je crois. Hein, c'est Josué, son disciple. Donc Josué qui fait traverser les prêtres, d'abord qui traverse en premier, puis qui met les petites stèles, là, ce qui traverse. Pour aller à Jéricho, donc ils prennent Jéricho en premier, puis chaque ville qui était prise, elle était vouée d'interdit, c'est-à-dire qu'on ne mangeait pas la nourriture, c'était voué d'interdit, mais une fois que les 12 tribus d'Israël, les territoires des 12 tribus d'Israël ont été établis, ben, il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils se fassent la guerre entre eux. Ça veut dire qu'il y a quand même une propension en l'homme à vouloir le territoire de son voisin. Donc, mais là, le problème, c'est qu'au moment de ces tribus-là, de ces 12 tribus d'Israël, elles étaient gérées par les juges. Et donc, on était juges de père en fils. Et ben, quand on est juge de père en fils, je passe pour rejoindre une question là tout à l'heure sur l'idée des prophètes, voilà, on est prophète parce qu'on a une histoire, là, on est juge de père en fils. Mais on était aussi mauvais juge de père en fils. Voilà. Jusqu'au moment où, précisément, le peuple, voyant que les autres, ceux qui habitaient la terre, sont organisés, ils ont un roi, une organisation, vont demander à leur tour d'avoir un roi. Et donc le premier roi, ce sera Saul. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même Dieu, la révélation de Dieu et sa manifestation. Elle se fait pour l'homme, mais on pourrait presque dire qu'elle se fait avec l'homme. C'est-à-dire que l'homme a un désir, il veut un roi, bien, voilà, à un moment donné, ben, Dieu décide, ben, donne-leur un roi. Donc ça veut dire que la manifestation de Dieu, elle ne réduit pas Dieu. Dieu ne fait pas ce que veut l'homme. Et Dieu reste pleinement Dieu dans sa révélation et sa manifestation. Mais on voit bien que le fait que c'est cette volonté initiatrice, c'est lui qui est l'initiateur, il va donc vers l'homme, et allant vers l'homme, eh bien, il accepte de... Je ne sais pas, on pourrait dire modifier, vous voyez, les termes, ils sont pas très, très faciles, mais il va adapter le salut, parce qu'au bout du compte, c'est comment il va sauver l'homme. Et on pourrait dire qu'il va sauver l'homme en dépit de ce qu'est l'homme, c'est-à-dire en dépit des alliances qui sont des infidélités du peuple, en dépit du veau d'or, en dépit de tout cela. Il va quand même le sauver. Mais on voit bien que Dieu s'adapte, et là vous mettez plein de guillemets, hein, à l'homme, mais on voit bien que Dieu aussi s'adapte, que l'homme aussi s'adapte à Dieu. C'est-à-dire que lui-même revoit sa manière d'être avec Dieu et comment il comprend qu'il a failli face à Dieu. Et c'est donc toutes les infidélités du peuple de Dieu, du peuple, qui fait qu'à un moment donné, le peuple découvre que Dieu est d'abord un Dieu qui se manifeste, mais que sa manifestation est d'abord par amour. Ça, c'est vraiment se dire que l'Ancien Testament, c'est un Dieu en colère, un Dieu vengeur. Ça non, c'est pas, ça peut pas tenir. Parce que Dieu revient toujours sur sa colère. Souvenez-vous, Jonas, hein, sous son ricin. Hein, puis l'oricin meurt, et puis Dieu dit à Jonas, mais as-tu raison de te mettre en colère? C'est Dieu qui fait la leçon à Jonas.
Oui, est-ce qu'on peut considérer en icône de ce que vous souvenez tout à l'heure, à savoir quitte ton pays, quitte ta terre, et voilà.
Et va vers le pays que je te montrerai,
c'est ça. Et en même temps, en icône, pour la première fois, et ça c'est un point qui me paraît très, enfin je dirais très
oui,
fort,
ouais.
C'est « va vers toi-même
ouais. »,
comme disent les Hébreux, je crois, enfin, « l'Ekhlecha ouais. », c'est-à-dire il y a la terre promise et terre de l'œuvre, mais il y a aussi, pour la première fois, la contemplation d'une terre intérieure qui est une terre promise, c'est-à-dire la découverte d'un Dieu intérieur qui n'est plus simplement le dieu des armées, le dieu vengeur, le dieu pharaon. Donc, je me demande si cette ambivalence qui intervient là, est-ce qu'elle a besoin d'être soulignée? Je ne sais pas.
Alors, le fait que vous, oui, le fait que vous pensiez aux icônes et sur l'idée de cette terre intérieure, ça reste quand même quelque chose de très chrétien. C'est-à-dire que, et c'est précisément ce que Jésus est venu, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir, et lui-même, en lui-même, il y a l'accomplissement de la loi. Et vous voyez bien que le cœur même de Dieu, c'est-à-dire l'essence même de sa manifestation et de sa révélation, ce n'est plus le temple. Vous voyez, il y a eu ce passage-là pour les Juifs. Bon, alors maintenant, il n'y a plus de temple, il ne reste que un vestige de mur, mais il reste la Torah. Donc, la dimension intérieure dont vous parlez, elle est plus une... C'est plus chrétien, enfin, ou catholique, je ne sais pas comment
oui,
on pourrait dire.
Oui,
par exemple.
Dans mon esprit, c'est vraiment la préparation, j'allais dire, comme une... se développer à proportion que l'homme va entrer dans une maturité spirituelle de plus en plus grande, et on s'achemine finalement, j'allais dire, d'une façon vers le Nouveau Testament très longtemps après. Mais on sent qu'on germine, que tout ça germine dès ce l'Ekhlecha. Enfin, c'est un peu comme ça que le sent, même si le terme.
Sauf que le cheminement, oui, mais vous n'avez pas tort, et peut-être que j'y mettrai plus de nuances, c'est que parce que le cheminement du peuple hébreu dans son histoire, c'est un cheminement qui s'est fait avec des relectures. Le peuple a compris la présence de Dieu dans son histoire parce qu'à chaque fois, il a relu ce qui lui était arrivé. Donc ce n'est pas quelque chose qui naît de l'intérieur, comme ça personnellement, mais c'est quelque chose qui est lié à une histoire commune. Vous voyez ? Et que cette histoire commune fait que, ah ben oui, ben, au 6e siècle avant Jésus-Christ, ils étaient, Nabucodonosor a détruit le temple de Jérusalem, il a pris les objets du temple, il a déporté tous les notables à Babylone, les soldats, les artisans, les commerçants, les notables. Il a enlevé de Jérusalem toute la force vive économique et guerrière de Jérusalem qui l'a emmenée à Babylone. Il n'est resté à Jérusalem ce qu'on appelle, ce qu'on lit dans l'Ancien Testament, le petit reste, ce petit reste-là qui était inoffensif. Eh bien, quand Cyrus le Perse vient en 537 combattre Nabucodonosor et reprendre à Babylone les objets sacrés et reconstruire le temple un petit peu plus tard, eh bien le peuple, il n'a pas tout de suite compris ce qui lui est arrivé parce qu'il le vit, il est déporté, il est tué, donc il le vit, donc il est en plein dedans, il ne peut pas, comment dire, il a les dents de guidon, il ne peut pas relire. Mais quand il est libéré, il va relire son histoire parce qu'il faut qu'il la transmette à deux autres générations, et relisant son histoire, il comprend comment Dieu s'est manifesté dans sa vie, enfin dans la vie du groupe. Ah ben Dieu, finalement, il a tenu promesse, il nous a libérés, il a fait venir un païen de Perse pour nous libérer. Et c'est comme ça que les choses se font. C'est comme ça que l'hébreu et le juif, enfin les juifs après, se comprennent. C'est-à-dire d'abord comme étant un groupe auquel Dieu s'est fait connaître, s'est manifesté, parce que c'est le peuple élu. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie que le peuple hébreu et les juifs, c'est le peuple élu. Il ne faut pas qu'on oublie que Jésus est juif, que les disciples sont juifs. Si on oublie ça, eh bien on oublie enfin tout un pan de la révélation, de l'histoire de la révélation. Lorsque Jésus meurt cloué sur la croix, il meurt en tant que juif, il est juif. Et vous voyez bien ce que ça représente de dire ça. Ça représente que la volonté de mort du groupe des pharisiens et du groupe des docteurs de la loi, etc., c'était pas simplement de tuer l'innocent, mais c'était de tuer un membre de leur groupe. Vous voyez, c'est-à-dire quand on prend conscience de ça, on se dit, ben oui, donc Jésus meurt sur la croix et il porte toute l'histoire de son peuple. Toute l'histoire de son peuple. Et donc en lui s'accomplit toute la révélation de son peuple. Voyez, mais c'est d'abord une révélation du groupe. On n'est pas. Alors, je ne veux pas dire de bêtises non plus parce que je ne veux pas extrapoler, mais me semble-t-il, la compréhension que les Juifs ont, pour être un peu de la double culture moi-même, c'est. On est juif parce qu'on existe pour l'autre juif. Vous voyez ? Je suis juif, je mets au monde un enfant qui deviendra juif. Donc, la notion de groupe, elle est importante parce que c'est dans le groupe que les choses se font. Il n'y a pas de prosélytisme en judaïsme. Il n'y a pas besoin d'aller convertir l'autre parce que de toute façon, on est juif par naissance. Donc vous voyez bien que l'existence du groupe, elle est primordiale, elle fonde l'identité, elle fonde la communauté. Et quand la communauté comprend son histoire, parce qu'il l'a relue à la lumière de l'action de Dieu pour le peuple, à ce moment-là, il est capable de revenir vers Dieu et de dire, on a été infidèle, mais on revient vers Dieu. Et c'est toute l'histoire de cet aller-retour de fidélité, d'infidélité. Et Dieu passe son temps à redire sa promesse, à redire comment lui, il est fidèle. Dans sa manifestation et dans sa révélation, ce qu'on peut dire, c'est que Dieu ne se lasse jamais de l'homme. Enfin, il me semble même que nous, personnellement, il pourrait se lasser de nous. Hein. Combien de fois on a douté non, il ne se lasse pas. Il ne se lasse jamais. Et donc, on découvre, dans la révélation de Dieu, on découvre qu'il est Dieu. Vous voyez, il est ça. Enfin, ça, vous voyez bien. Il découvre qu'il est celui qui ne se lasse jamais, qui ne se fatigue pas, qui est prêt à tout donner jusqu'à donner son fils. Enfin, voilà. C'est... Alors après, qu'est-ce qu'on en fait, nous, dans notre acte de foi, comment on reçoit ça? Mais même nous, ça, on le reçoit, alors ça rejoint ce que vous dites, madame, c'est-à-dire que on le reçoit personnellement dans un cheminement spirituel, un cheminement intérieur qui nous appartient, et puis on va le recevoir communautairement, ecclésialement, je dirais plus exactement, lorsqu'on dit le credo le dimanche à la messe. Lorsque je dis « je crois » au milieu de ma communauté, je dis « je crois » et chacun d'entre nous, on le dit, mais en le disant, on prend à témoin les autres membres, et chacun, vous voyez, je dis je crois, celui qui m'entend dire je crois, peut témoigner que je l'ai dit, et vice-versa, et moi pour lui, voyez. Il y a un échange ecclésial, il y a ce qu'on a lu sur le dialogue, la révélation c'est un dialogue, c'est une mise en relation. Je fais de vous des amis. Je vous invite à
participer à ma nature divine, dit Verbum. Voilà. Bon, je parle beaucoup. C'était tout ça pour vous parler de la radicalité, de la nouveauté, de ce que ça représentait comme nouveauté pour le groupe d'Abraham. On fait toujours partie d'un groupe.
Vous nous avez parlé des difficultés de traduction entre le grec et le latin,
oui,
pour le Nouveau Testament. Une partie de l'Ancien Testament était en hébreu.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire, nous enseigner comment s'est passée la transmission? Parce que Dieu sait que c'était différent. Les traditions juives étaient très différentes des traditions romaines.
Alors, l'Ancien Testament est écrit en hébreu, parce que c'est les Hébreux, encore une fois, qui ont relu leur histoire, et donc ils ont écrit en hébreu. Je crois qu'il y a deux textes, mais je ne suis pas sûre, j'en suis sûre d'un, pour moi c'était le seul qui est écrit en grec, mais il me semble avoir lu après qu'il y en avait un deuxième. Mais bon, je vous dis ce dont je suis sûre. C'est le livre de la sagesse. Le livre de la sagesse, c'est le seul livre. Vous mettez peut-être un point d'interrogation parce que je vous dis ça, mais bon voilà, qui a été écrit en grec. Il se peut qu'il y en ait un second, mais le problème c'est que je ne sais pas approfondir l'histoire. Mais en tout cas, le livre de la sagesse est un livre qui a été écrit en grec. Alors, la question du grec et de l'hébreu, elle s'est posée particulièrement. Pourquoi on a reçu le latin, par exemple? Eh bien, il faut remonter au Concile de Trente, en 1545. Concile de Trente. Alors, le Concile de Trente, donc Trente, c'est en Italie. Concile de Trente, 1545-1563. Le Concile de Trente, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je pense que cette date-là, ça vous dit quelque chose, parce que si je vous mets 1517, ben vous allez me dire, ben oui, 1517, c'est Luther. En 1517, Luther, eh bien, il énonce 95 thèses. Luther, il est fait partie de l'Église, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est ailleurs, hein. Il fait partie de l'Église, et voilà que Luther met en débat dans l'Église, à partir de ces 95 thèses, l'idée, qui n'était pas une idée, hein, en même temps on lui donne raison à Luther, à propos des indulgences, et Luther dit, est-ce qu'il est normal que l'Église monnaie le salut? Puisque c'était ça les indulgences, vous voulez être sauvé, vous voulez être sauvé, voilà, ben, si vous voulez la vie éternelle, il faut l'acheter. Voilà. Alors bien sûr, ça permettait l'argent, permettait de construire des cathédrales, on n'est pas non plus, c'était pas juste pour, on n'est pas dans des conflits d'intérêts, c'était pour construire des cathédrales, mais vous voyez bien que lorsque Luther pose son pavé dans la mare, hein, Luther c'était un moine inconnu en Allemagne, voilà, et ben on n'imaginait pas en 1517 que ce moine inconnu, un peu mystérieux, un homme angoissé, allait mettre carrément modifier la géographie religieuse de l'Europe. On n'imaginait pas ça. Et pourtant, ça a été le cas. Alors, si je vous parle du Concile de Trente, c'est parce que précisément au Concile de Trente, Luther, il meurt en 1546. Donc, un an après le début du Concile de Trente. Eh bien, la querelle pour Luther... Parce que l'homme est un être pécheur. Pour Luther, c'était un angoissé. L'homme, en tant qu'homme, c'est-à-dire dans son être profond, ce qui le caractérise, il est pécheur. Voilà. Et parce qu'il est pécheur, il ne peut être sauvé que par la foi. Seule la foi peut le sauver. Et la foi, c'est l'écriture seule, la sola scriptura. Le recours du salut, ce n'est que l'écriture. Ça ne peut être que l'écriture. L'Église dit autre chose. L'écriture est le recours du salut, mais il n'y a pas... Et l'Église a raison de dire ça. Elle a raison aujourd'hui de le dire aussi. C'est de dire, il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi les œuvres. On peut être sauvé par les œuvres, quand les œuvres sont bonnes.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il fallait contrer les réformateurs. Le Concile de Trente a décrété que pour contrer les protestants et pour clore le canon des Écritures, enfin, il fallait clore le canon des Écritures, le Concile de Trente a reconnu le latin, c'est-à-dire a dit « Vous pouvez traduire la Bible dans la langue vulgaire, mais à partir de la Vulgate, c'est-à-dire de la Bible en latin. » Voilà, c'est ça qui faisait autorité. Alors que les protestants, eux, ils continuaient, ils prenaient l'Ancien Testament, je crois même maintenant, hein, je ne suis pas très au fait, mais c'est toujours la traduction de l'Ancien Testament.
Je ne comprends pas, alors. Les filles sont d'accord, le Concile est d'accord pour traduire...
En langue vulgaire, mais à partir de la Vulgate, à partir du latin.
Bah non, la langue vulgaire, c'est le latin.
La langue du pays, enfin la langue vulgaire. Voilà. Bon, alors que vous pouvez traduire par vulgate si vous voulez, mais c'est le latin. C'est-à-dire, c'était le latin qui faisait autorité pour les voilà. En confirmant cela, l'Église dit c'est la Bible, elle est latine, c'est en latin et non pas en hébreu, à partir de l'hébreu, puisque les protestants, eux, ont toujours recours à la traduction en hébreu. Je crois que la Bible de Jérusalem, c'est une traduction à partir de l'hébreu. J'en suis pas certaine. Hein.
Ça veut dire que la Septante n'a pas été reconnue entre les deux ?
Mais la Septante, elle existait déjà, la Septante. La Bible, notre Nouveau Testament, c'est la Septante parce qu'elle est grecque. Elle est écrite en grec. Donc ensuite, ça a été traduit par Saint Jérôme, et même il a fait des erreurs, ça a été traduit en latin, vous voyez. Mais l'Ancien Testament, si vous prenez l'Ancien Testament, vous étudiez le Nouveau Testament, vous êtes obligé de prendre le grec, d'étudier le grec. Il n'y a pas de latin dans le Nouveau Testament, c'est que du grec. Donc c'est la Septante, effectivement, le Nouveau Testament, c'est la Septante. Et ensuite, de la Septante, on a traduit en latin.
Oui, mais il y a un truc. De toutes les façons, la première écriture était en hébreu, on est d'accord ?
Oui.
De l'hébreu, c'est passé au latin.
Alors, quand vous dites c'est passé de l'hébreu au latin, si vous parlez de l'Ancien Testament, l'Ancien Testament est écrit en hébreu.
Oui.
Voilà. Ensuite, le Nouveau Testament, lui, il a été écrit dans la langue qui était pratiquée à l'époque, c'était le grec. Voilà. À partir de là, il y a eu des traductions. Jérôme a traduit le hébreu, il a traduit... Je ne sais pas si il a traduit le grec. Je ne suis pas bibliste, hein, donc voilà. Il y a eu des traductions. Et donc la traduction s'est faite en latin. Et donc c'était la Bible ancienne, c'était la Vulgate. En ancien et j'imagine en Nouveau Testament, il y a eu une traduction du grec en latin.
Mais donc, à la fin, c'est passé de l'hébreu ou du grec au latin.
C'est passé de l'hébreu au latin. Ouais. Voilà, parce que c'est pas passé de l'hébreu.
C'est la même chose. Finalement, que les protestants prennent celle qui est en hébreu, les catholiques, si je comprends bien, ils ont traduit l'hébreu en latin. Mais c'est la même chose. C'est une traduction, mais c'est un peu pareil.
C'est quand même pas là. Alors, vous me dites, oui, mais simplement, quand les protestants traduisent l'hébreu, pas s'ils traduisent l'hébreu en... Je ne sais pas, quand ils l'ont traduit en allemand, quand Gutenberg a imprimé son... Voilà, je ne pourrais pas vous dire, est-ce qu'ils ont... La traduction a été identique. D'ailleurs, Jérôme, il s'est trompé. Pourquoi on voit Marie sur un globe avec des cornes sur le globe? Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Bon, ben voilà, ça c'est une... Jérôme s'est trompé dans la traduction de l'hébreu au latin. Donc, si vous voulez, là, moi, je ne suis pas une historienne de la traduction, mais il faudrait demander à un bibliste. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les protestants, la Bible qui fait autorité, l'écrit qui fait autorité, c'est l'hébreu. Après, nous avons la TOB, la traduction œcuménique de la Bible. Et là, vous avez une traduction qui est une traduction commune des protestants, des orthodoxes et des catholiques. Voilà. Parce qu'il faut vous dire qu'il n'y a pas qu'une écriture de la Bible, mais il y a plusieurs traductions de la Bible. Vous avez la Bible Ostie, vous avez la Bible de Jérusalem, vous avez la Bible Second, vous prenez la Tobe. C'est-à-dire que si vous étudiez la Bible en faisant de l'exégèse, vous allez prendre un texte, et bien si vous interprétez ce texte uniquement à partir de ce que vous avez sous les yeux, et bien ce sera faux ou pas tout à fait juste. Parce qu'on vous demandera, est-ce que vous êtes allé voir les autres traductions ? Parce que si vous prenez un texte de la Tobe et un texte, le même texte de la Tobe et de du livre de la BJ, la Bible de Jérusalem, vous n'aurez pas les mêmes mots. C'est ça la différence.
Mais pour... Vous avez dit les preuves de la Tobe, c'est protestant, catholique et qui ?
Et orthodoxe. Traduction œcuménique de la Bible. Et quand on travaille un texte, on prend toujours, enfin toujours, c'est recommandé de prendre un texte de la Tobe. Et à partir de ce texte-là, eh bien, on va aller voir l'hébreu, on va aller voir le latin, on va aller voir le grec. Sur un même mot, eh bien, il peut y avoir des différences de traduction. Et c'est comme ça qu'on rentre dans la pensée de celui qui a traduit. Pourquoi ça a été traduit comme ça et pas autrement? C'est comme ça qu'on fait de l'exégèse.
La traduction liturgique,
c'est... Alors, la traduction liturgique, c'est une traduction, alors moi je ne suis pas très calée, hein, mais c'est une traduction, c'est comme c'est une traduction adaptée à la liturgie. C'est-à-dire que les tournures de phrases vont être adaptées à une mise en œuvre, gestuelle.
Pour la proclamation.
C'est ça la liturgie. Hein. Liturgie, on connaît tous ce mot. Hein. Lurgie, c'est l'action. C'est l'action de la parole. Donc c'est la parole en action, la liturgie. Hein, et on connaît tous métallurgie, sidérurgie. Voilà, c'est ça.
Donc, aujourd'hui, les catholiques, quand vous dites qu'on a la Bible de Jérusalem, par exemple, on ne part pas que de la Vulgate, puisque la Bible de Jérusalem, ils la traduisent de l'hébreu.
Mais la question, je comprends votre question, mais j'ai du mal à voir quelle est la finalité, finalement.
Non, parce que je croyais qu'à partir du Concile de Trente, on disait, la Bible qui fait foi pour les catholiques, on parle de la Vulgate, celle qui avait été traduite en latin.
Pourquoi on parle de la Vulgate? Alors, je vais terminer ma démonstration. Pourquoi on parle de la Vulgate? Parce que le Concile de Trente a affirmé que le latin était la langue qui faisait autorité pour la traduction de la Bible, et je continue, parce que à partir de là, le canon était clos, qu'on ne pouvait plus ajouter des choses et on ne pouvait plus en enlever. C'était un bloc qui était clos. Et la discussion, en fait, elle était close à partir de ce moment-là pour les protestants, avec les protestants. C'est ça qui se joue au Concile de Trente. C'est de dire, en gros, les protestants, vous pouvez partir de l'hébreu, mais les catholiques, c'est la Vulgate, la Bible qui fait autorité. On n'ajoute rien, on ne retranche plus rien. Le canon est clos.
Vous voulez dire le canon, c'est aussi...
Le canon des Écritures.
L'évangile apocryphe, c'est ça?
Alors, non. Quand on dit le canon, en grec, ça veut dire la norme. C'est-à-dire que c'est le cadre normatif à l'intérieur duquel se trouvent les Écritures, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça veut dire ça, canon. Les écrits apocryphes, ce sont des écrits que l'on trouvait du temps de Jésus, qui n'ont pas été reconnus parce qu'ils n'étaient pas authentiques. Alors, comment ça s'est fait? Ça s'est fait que les communautés chrétiennes, à la mort de Jésus, les communautés se sont réunies, elles se réunissaient en cachette la plupart du temps, elles partageaient le repas et elles lisaient des lettres. Et c'était les lettres de Paul. La première lettre de Paul, le premier écrit, c'est la première aux Thessaloniciens en l'an 50. Et donc les communautés lisaient les lettres que Paul leur envoyait et elles échangeaient leurs lettres. Paul, il a écrit 7 lettres hein, sur les 13 que nous avons, il n'y en a que 7 qui sont identifiées de sa main. Et donc, la sélection se faisait naturellement, c'est-à-dire que les textes que la Bible, que nous, notre évangile a retenu, c'est-à-dire la plupart du temps qu'on a dans les Actes des Apôtres, les lettres de Paul, cette sélection a été naturelle parce que c'est les communautés qui lisaient ces lettres-là. Et il y avait des lettres qui étaient lues plus que d'autres. Et bien celles qui étaient lues plus que d'autres, elles demeuraient dans les communautés. Et c'est comme ça que le canon s'est fait. C'est les premières communautés, les communautés primitives, qui en sélectionnant naturellement les écrits, ont constitué un premier canon. Et pour en revenir aux écrits apocryphes, les écrits apocryphes sont des écrits qui ne sont pas authentiques. C'est-à-dire que les écrits du Nouveau Testament ou les lettres de Paul, elles sont authentifiées soit de la main de Paul, soit de celui-ci, ou authentifiées de l'évangéliste Marc, Marc, Matthieu, en sachant que Marc est le premier qui a écrit son évangile. Voilà. Et puis après, chacun, Matthieu et Luc, ils écrivaient pour leur communauté propre. Mais ils ajoutaient dans leur évangile, ils ajoutaient des paroles de Jésus. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a là des évangiles qu'on peut lire en synoptique, c'est-à-dire en parallèle. C'est la même chose et en même temps, c'est pas pareil. Ben là, est-ce qu'on doit se dire, ah oui, mais alors est-ce que c'est la traduction du grec qui a été mauvaise? Comment ça se fait? C'est pourtant en grec et pourtant c'est différent entre Matthieu, Marc et Luc. On n'a pas la même chose. Est-ce que du coup on nous trompe parce que c'est du grec? Ça, à la limite, on s'en fiche. Ce qui nous importe, c'est que ce qui est écrit dans l'évangile est écrit en vérité. C'est ça qui est important. En vérité. Et donc, les apocryphes faisaient partie des écrits qui n'étaient pas authentiques. Donc, on les a laissés.
Authentifiés, donc authentiques.
Authentifiés comme, authentifié comme n'étant pas authentiques.
Voilà. Des gens qui ont dit que ce n'est pas authentique.
Voilà. Mais vous pouvez lire.
Nous, on a dit que ce n'était pas authentifié.
Oui, mais enfin, il faut lire les écrits apocryphes hein, quand même.
Ouais,
voilà. Vous pouvez lire, c'est en livre de poche, hein, ça s'écrit les écrits apocryphes. Faut lire. C'est pas, voilà, on n'a pas décidé qu'ils étaient inauthentiques, mais. Oui, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de. Les choses sont montées un petit peu.
Pour revenir au pavé dans la mare de Luther, pourquoi est-ce que l'analyse du salut est différente selon que ce soit en hébreu, en grec, en latin ou en vulgate ou autre?
Pourquoi ils ont choisi le latin comme langue Pourquoi ils auraient très bien pu garder la traduction de l'hébreu, pas faire comme les
protestants? En même temps, il faut se dire que depuis 1054, mais 1054, le schisme entre l'Orient et l'Occident, hein, en 451, on a quatre églises qui sont des églises orientales, Alexandrie, Antioche, Constantinople et Jérusalem, et on n'en a qu'une seule de Rome. Donc Rome est en minorité. Il aura fallu le concile de Chalcédoine en 451, il aura fallu qu'à partir de là, il y ait des conciles, enfin je vous rappelle que jusqu'en 1054, ce sont les empereurs qui convoquent les conciles et pas les papes. À partir de la rupture avec l'Orient, à propos, enfin, vous me faites aller dans des histoires, à propos du filioque, hein, c'est toujours pareil, hein, la procession de l'Esprit, il procède du Père et du Fils pour les catholiques, et il procède du Père, du Fils par le Père pour les orientaux, à partir de là, il y a rupture. Et donc à Rome, ben, on parle le latin. On parle le latin. Donc le latin, en 1545, c'est le latin qui fait autorité depuis 1054. Depuis le schisme entre l'Orient et l'Occident.
Et puis c'est la langue universelle de toutes les personnes, toutes les personnes.
Bien sûr, oui.
Que ce soit des juristes, que ce soit...
Donc c'est une langue de concile plus qu'une langue de conciliation.
On pourrait dire ça, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, oui. Et c'est une langue qui a fait conciliation, je ne sais pas si ça se dit, mais pour l'Église catholique, quoi. Voilà, il fallait reconnaître cette langue-là comme autorité. Mais enfin, je ne sais pas. Enfin, on est tous dans cette pièce à avoir un certain âge, hein, quand même. Hein. Moi, je suis allée à la messe, c'était en latin. Hein. Ah, j'ai vu le prêtre qui nous tournait le dos, vous voyez. Et c'était tout en latin. Donc, c'était comme ça, on n'y comprenait rien. Mais c'était comme ça, c'était le latin. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important, quelle que soit notre tendance dans l'Église, c'est important d'écouter l'Évangile dans notre langue. Parce qu'on ne doit plus, personne ne parle le latin, donc il faut qu'on comprenne la parole de Dieu. Ça, c'est primordial. Si la parole de Dieu est proclamée et qu'on ne la comprend pas, alors... C'est un peu bizarre.
Il y a peut-être quelque chose aussi qu'on pourrait souligner, c'est que le travail de traduction est un travail très complexe et oui, très ambigu. Les Italiens disent traditore, ça veut dire bien ce que ça veut dire. Ouais, c'est-à-dire qu'à l'insu de leur plein gré, ils se comportent un peu comme des traîtres, mais ils ne le souhaitent pas, bien évidemment. Moi, je pense qu'il en va aussi de toute cette problématique de traduction, d'un discernement intérieur qui appartient à chacun d'entre nous. Par exemple, je cite ça parce que ça m'a beaucoup intriguée, quand à un moment donné, la femme de Job, qui est épuisée par toutes les mots qui accablent son époux, lui dit, selon une certaine traduction, « maudit Dieu et meurt », et bien, moi j'entends dans une autre traduction, « bénit Dieu », parce qu'en hébreu, on ne maudit pas. L'acte de maudire et de dire est absolument irréconciliable et mute. Parce qu'en hébreu, c'est pas tu meurs, tu mutes. Alors, est-ce que la première traduction est fausse? C'est pas sûr. Il y a simplement des degrés d'interprétation, comme le conçoit d'ailleurs avec une si grande pertinence la tradition hébraïque. C'est d'ailleurs avec les 4 degrés jusqu'au sod et au grand secret. Donc, la question de la traduction, alors moi je dirais qu'à un moment donné, c'est vraiment dans notre intériorité et un travail de profondeur qui nous appartient peut-être de voir.
Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Et à cela, on peut rajouter le travail scientifique. Parce que les biblistes et la Bible demeurent un objet, mais quand même un livre vivant. Précisément parce que les traductions ne s'arrêtent jamais, c'est-à-dire que les biblistes continuent toujours de découvrir d'autres manières de traduire parce qu'ils découvrent des rouleaux, enfin voilà, il y a quand même, donc on ne peut pas se dire que la Bible que j'ai entre les mains, c'est une traduction qui est close, c'est-à-dire que la traduction, elle continue, le travail scientifique de la traduction elle continue de se faire de toute façon.
Et puis, peut-être pas oublier ce dernier point, c'est que la langue hébraïque est d'une richesse absolument, sur le plan du sens, absolument fabuleuse. Donc, comme vous le disiez justement, je crois qu'on lève les voiles, on n'en a pas fini de lever les voiles en permanence.
Oui, tout à fait. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on ne peut pas se fier qu'à une seule traduction.
Absolument.
Si on se dit qu'on se fie qu'à une seule traduction, alors on n'entre pas dans le texte, c'est-à-dire on n'entre pas dans la profondeur de l'intention, voilà. On n'entre pas dans l'intention de l'auteur. Lorsqu'un auteur écrit, comme un artiste d'ailleurs, lorsqu'il fait une œuvre d'art, une sculpture, il a toujours une intentionnalité. Quand on écrit, c'est pour être lu. Eh bien, l'auteur, lorsqu'il écrit, il écrit pour être lu. Et donc, c'est au lecteur ou au spectateur de l'œuvre de rejoindre l'auteur par ce travail d'interprétation. Donc, si on veut aller au plus près de ce qui a été écrit, eh bien, on doit étudier la langue. Voilà, et ben, si on prend la tobe et puis qu'il y a un mot... qui n'est pas le même que dans la Bible de Jérusalem, et ben on va à la source. La source, c'est le grec. Voilà, l'évangile, vous prenez l'interlinéaire et vous allez voir le grec. Voilà.
Alors, je vais essayer de reprendre le fil. Voilà. Alors, tout ça pour dire que de toute façon, tout ce qu'on a dit, c'est de toute façon faire l'expérience. C'est comment l'homme, enfin vous voyez bien quand je dis l'homme, hein, j'ai l'humanité, j'ai l'humain, hein, fait l'expérience de Dieu. Et que par l'écriture, ou même tout ce que l'on a dit qui paraissait peut-être digresser par rapport, mais finalement non, c'est ça. Toutes vos questions nous permettent de nous ramener sur la manifestation et la révélation de Dieu, et y compris les traductions, parce que ça nous ramène dans l'expérience que nous faisons de la manière dont Dieu se révèle, comment Dieu fait faire à des hommes une expérience de sa révélation, comment ces hommes interprètent et relisent leur expérience, et à un moment donné, ils la mettent par écrit. Et cette mise par écrit, c'est une expérience de révélation. Alors ça rejoint ce que vous dites, madame, sur de révélation intérieure. Parce qu'il y a une maturation de l'écriture. Si la révélation est soudaine, immédiate, la mise par écrit, par contre, c'est un acte de maturation. Et quand on met par écrit, c'est parce qu'on a l'intention que ça se perpétue. Voilà. Une tradition orale, elle est faite pour se perpétuer, on est d'accord. Dans nos familles, nous avons des traditions que nous perpétuons. La seule différence, c'est que ce que nous disaient nos grands-mères ou nos grands-pères, dans un langage qui était le leur et celui de notre époque, quand on veut le transmettre à nos enfants, eh ben, c'est plus du tout la même chose. La distance est tellement grande que ça n'a plus de signification. Mais vous voyez bien que lorsque c'est mis par écrit, dans l'idée de perpétuation et de continuité, à ce moment-là, le travail que nous devons faire aujourd'hui, qui est un travail intérieur, comme vous le disiez, qui est un travail spirituel de réception de la révélation de Dieu, et bien à ce travail-là, enfin travail, vous voyez bien, c'est pas du travail, mais à cet acte-là, nous devons joindre un acte d'intellectuation, enfin j'ose pas dire intellectuel, mais voilà, d'aller voir ce qui est écrit, d'aller voir comment c'est écrit ailleurs. Parce que là, il y a un acte d'écriture qui est un acte qui dit aussi un acte de foi. On a mis par écrit parce qu'on avait la foi en cette expérience de révélation et que cette expérience-là, on veut en témoigner. C'est ça l'écriture. L'écriture, elle témoigne que quelque chose s'est produit à un moment donné. Voilà, à un moment donné, Dieu a parlé à Abraham. À un moment donné, eh bien, Dieu, le Verbe s'est fait chair. Voilà. Et il a habité parmi nous. Voilà. Et donc l'écriture, elle témoigne de ça. Et vous voyez, ce témoignage-là, il est fait pour être annoncé. Vous voyez, c'est ça l'économie dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a tout un processus, toute une mise en œuvre économique. Alors nous, aujourd'hui, on dirait pas, on peut parler de témoignage, mais voilà, nous, on pourrait dire, ben, nous, au nom de notre foi, on va, lorsqu'on témoigne de l'écriture, on évangélise d'une certaine façon. Mais on ne va pas se dire, ben, ma mission aujourd'hui, c'est d'évangéliser. Parce qu'il y a plein de manières d'évangéliser. Il n'y a pas que d'asséner des vérités. Donc en s'auto-communiquant, Dieu offre à l'homme la possibilité de le connaître de l'intérieur. Voilà, de le connaître de l'intérieur. Dieu se révèle en personne et fait connaître, c'est ce que nous dit Dei Verbum, le mystère de sa volonté. Parce que la volonté de Dieu, c'est toujours un mystère. De toute façon, on n'arrivera jamais autrement. Voilà. Et Christophe Théobald, qui est pas très loin d'ici, qui est un théologien du Centre Sèvres, il dit « Dieu n'a qu'une seule chose à nous dire, un seul mystère à révéler aux croyants, c'est lui-même et lui-même comme destinée. » Voilà. La destinée de Dieu, c'est l'homme, et la destinée de l'homme, c'est Dieu. On retourne à Dieu. Donc il s'agit du destin de l'homme dans sa propre histoire et en même temps dans son histoire universelle. Voilà. On est nombreux ici. On vit chacun et chacune personnellement notre foi. Et pourtant, il y a quelque chose qui nous unit, c'est la foi unique en Christ. On fait une unité dans cette foi-là. Et pourtant, la foi, elle se dit et elle se vit de différentes manières. Alors, pour terminer, je peux peut-être vous lire le texte de Karl Rahner dont je parlais tout à l'heure. Ce que nous nommons connaissance, ou c'est le texte 4. Ce que nous nommons connaissance ou expérience transcendantale de Dieu est certes une connaissance a posteriori, dans la mesure où l'expérience transcendantale que fait l'homme n'advient toujours que dans la rencontre du monde, et avant tout du monde relationnel. L'homme n'a qu'une connaissance a posteriori à partir du monde, une connaissance qui, même par la révélation de la parole, n'est pas seulement dépassée du simple fait que celle-ci, une fois encore, doit être œuvrée avec des concepts humains. C'est un petit peu compliqué, là, cette phrase-là. Je peux l'expliquer. Notre connaissance ou expérience transcendantale doit donc, à ce compte, être nommée a posteriori, pour autant que toute expérience transcendantale est médiatisée, dès l'abord par une rencontre catégoriale avec les réalités concrètes de notre monde, ambiant et relationnel. Alors, voilà. Qu'est-ce que nous dit ? Mais c'est compliqué, et en même temps, voilà ce que nous dit Karl Rahner. Il nous dit, nous faisons dans le monde une expérience transcendantale de Dieu. Notre monde, il est catégorial. Voilà, ça c'est catégorial, la table, elle peut pas avoir de dimension spirituelle, on est dans du catégorial. Et nous-mêmes, nous sommes dans une dimension horizontale. Donc on pose, pour Balthazar, la dimension horizontale, c'est la dimension catégoriale. Eh bien on imagine que dans cette dimension, enfin on n'imagine pas puisqu'on le vit dans notre foi, dans cette dimension catégoriale, par la révélation de Dieu, il y a quelque chose de transcendantal qui vient dans le monde. La cause transcendantale de Dieu vient dans le monde et vient ouvrir une perspective qui est une perspective spirituelle en l'homme. C'est ça que nous dit Karl Rahner. Mais il nous dit, vous ne pouvez atteindre, vous pauvres hommes pécheurs, vous ne pouvez atteindre la dimension transcendantale de Dieu que par la dimension de médiation. Et la médiation, ça caractérise notre religion chrétienne. Et la médiation, c'est un terme éminemment théologique, parce que la médiation, c'est le Christ. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. Qui m'a vu, a vu le Père. La médiation, c'est ça que nous dit Balthazar. Même quand je parle de Rahner, je sors Balthazar. Voilà ce que nous dit Karl Rahner. Il nous dit, votre monde a été créé par Dieu et vous avez été créé par Dieu vous-même et vous faites partie du monde. Mais à un moment donné, Dieu est entré dans le monde et il s'est fait connaître à vous. Eh bien, dans votre pauvre dimension humaine, est entrée une dimension qui vous dépasse, qui est la dimension transcendantale. On peut s'élever verticalement. Voyez, c'est ça. Mais on peut le faire parce qu'il y a le Christ et parce que par lui, par sa mort et sa résurrection, vous pouvez atteindre le Père. Voyez, c'est tout simple. Mais Karl Rahner, il était compliqué. Il faisait des phrases de 15-20 lignes. Voilà. Et pour lire Karl Rahner, il faut avoir des stabilos de couleur. Voilà. Et puis il y a tous les connecteurs logiques. Alors, parce que, quand, dès lors, voilà. Et une fois qu'on a surligné tous les connecteurs logiques, alors on peut comprendre Rahner. Mais c'est ça qui nous dit Rahner. Vous voyez, c'est important. Donc c'est une compréhension a posteriori. On relit, on comprend les choses, mais après. Voilà. Bon, la prochaine fois, on abordera en détail, j'ai mis la révélation dans l'Ancien Testament. Alors, comme je vous ai dit plusieurs choses, pas mal de choses, que je n'avais pas forcément prévu de vous dire, mais bon, je suis vraiment désolée, mais c'est un petit peu ce qui me caractérise. Peut-être que je répéterai des choses, j'en dirai d'autres, mais bon, sachez que la fois prochaine, on est sur le témoignage de la révélation dans les Écritures et principalement dans l'Ancien Testament. Voilà.